BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire cette semaine, eh bien, la réouverture de l'un des plus beaux grands magasins parisiens, c'est la Samaritaine. Le célèbre site au cœur de la capitale a fait entièrement peau neuve à l'issue de très longues années de travaux, avec au total 750 millions d'euros d'investissement pour le groupe LVMH. On vous dit tout sur la renaissance de la Samaritaine dans quelques instants. Nous parlerons également d'une nouvelle licorne française, même si elle est déjà très tournée vers l'international. Cette licorne, la 16e, eh bien, c'est Aircall qui vient de lever 120 millions de dollars. On est là dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine du cloud, pour éviter aux entreprises d'avoir leur propre terminal téléphonique. Et puis avec notre invité, eh bien, nous parlerons plus globalement de la filière numérique française. Avec nous donc en plateau, Godefroy de Bensman, coprésident de Numéum. Numéum, eh bien, c'est la nouvelle entité née de la fusion entre le Syntec numérique et Tech in France. Nouvelle entité qui représente 2300 entreprises et plus de 530 000 emplois directs en France. Et on commence donc en cette période où de nombreuses personnes constatent avec beaucoup de dépit le déclin esthétique de la capitale par la renaissance de l'un des plus beaux monuments parisiens. C'est la Samaritaine et ses 70 000 mètres carrés en plein cœur de la ville. Le site était fermé depuis 16 ans, depuis 2005 donc. Alors on le voit sur les images qui vont être derrière moi. Emmanuel Macron est venu lui-même inaugurer cette nouvelle Samaritaine, propriété du groupe LVMH. Un groupe qui a investi environ 750 millions d'euros pour transformer tous ces différents bâtiments. Dans un instant, on va écouter Jean-Jacques Guyoni, le PDG de la Samaritaine, interrogé sur place cette semaine par Thomas Asportas. Mais tout d'abord, Hélène Cornet nous rappelle les grandes ambitions de la Samaritaine.
À mi-chemin entre Notre-Dame et le musée du Louvre, la Samaritaine devrait être le nouveau lieu incontournable des touristes étrangers. C'est en tout cas comme ça qu'il a été pensé pour sa rénovation. Un magasin mêlant luxe, mode, art de vivre à la française et gastronomie. D'ailleurs, sa gestion a été confiée à DFS, la branche de distribution sélective du groupe de luxe, qui sait, selon sa directrice Europe, Éléonore de Boisson, ce qui plaît aujourd'hui à la clientèle internationale.
DFS est tout d'abord reconnu pour son excellence en termes opérationnel. Donc voilà, en termes de vendeurs, de qualité de service, etc. Donc vraiment le service un tout petit peu à l'asiatique. Hein. DFS est essentiellement développé en Asie-Pacifique. Mais DFS a aussi, si vous voulez, une faculté de s'adapter complètement au marché local et, si vous voulez, de s'implanter au marché local et de vraiment se dire, ben voilà, ici, qu'est-ce que vient chercher le touriste ? Eh bien, le touriste, il vient chercher un lieu authentique.
Des touristes qui devraient représenter d'ici 3 ou 4 ans plus de la moitié de la fréquentation et du chiffre d'affaires du magasin. Un vrai pari néanmoins pour le groupe, alors que le commerce parisien a subi une chute sans précédent en raison de la crise sanitaire.
Quand on nous a demandé de fermer le magasin en 2005, on ne pouvait pas refaire un magasin à l'identique. Ça n'avait absolument aucun sens, ni sur le plan économique, ni même et surtout sur le plan de l'usage. L'usage avait varié. Donc on s'est dit, il faut un nouvel usage. Et le nouvel usage, c'est la mixité. Donc on a décidé de définir un programme qui permettrait d'associer plusieurs types d'activités. L'hôtel, les logements, les bureaux. Alors il y a une crèche aussi et le grand magasin. Et tout ça, dans les 70 000 mètres carrés de la Samaritaine qui sont autour de nous, on a réussi à trouver un programme qui combine tout ça.
Et alors, donc, cette nouvelle Samaritaine, elle est pour les Parisiens ou elle est pour les touristes ? Je vous pose la question parce qu'il y a un mois à peu près, j'ai interviewé le nouveau patron du printemps et il me disait que sa nouvelle priorité en tant que nouveau patron, c'était justement de faire revenir les Parisiens dans son magasin.
Bien sûr.
Quelque part, les grands magasins, il y a eu un peu un divorce avec les Parisiens. On a été obsédé par les touristes et les étrangers et on a un peu délaissé les locaux, les Parisiens. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Et est-ce que vous vous dites c'est avant tout pour les Parisiens ici ?
Alors, c'est pas avant tout pour les Parisiens, c'est pour tout le monde. On trouvera pas de tout à la Samaritaine, mais on espère trouver tout le monde à la Samaritaine. On espère que les touristes se retrouveront dans l'offre que nous avons mise ici. On espère aussi que les Parisiens s'y retrouveront. Il y a beaucoup de marques qui sont à la fois accessibles, contemporaines, un peu différentes des marques de luxe classiques que recherchent la plupart des touristes. Mais c'est pas très différent de ce qu'on fait au Bon Marché. Le Bon Marché n'est pas un magasin de touristes. Il y a des touristes au Bon Marché, mais ça n'est pas
plutôt une clientèle locale, justement.
C'est les deux.
C'est un grand magasin parisien.
Vous avez exactement. C'est dans l'âme un grand magasin parisien dans lequel il y a quand même un peu de touristes et il y a des Parisiens. On essaie de recréer ça ici.
Voilà, c'est vrai que la Samaritaine et le Bon Marché, ce sont quand même de vraies pépites du tourisme et du commerce au niveau parisien. Alors après avoir parlé de ces merveilles nées dans l'Ancien Monde, eh bien on va passer sans transition aux pépites du Nouveau Monde. En l'espace de quelques semaines, on en a parlé dans cette émission, la France a enregistré 4 licornes supplémentaires, Alan, Shift Technology, Ledger, et la toute dernière, eh bien la 16e, elle a été annoncée cette semaine, c'est Aircall, désormais valorisée plus $1 milliard après sa 4e levée de fonds d'un montant de $120 millions. Aircall, pour faire simple, eh bien, propose des solutions de téléphonie qui s'intègrent au logiciel de ces entreprises clientes, ce qui permet à ces entreprises de gérer les centres d'appel ou encore leurs relations clients. La start-up créée en 2014 reste française, mais vous allez le voir, elle a déjà plus qu'un pied à l'international. C'est aussi cela, déjà, le succès des start-up françaises. Dans un instant, on va écouter Jonathan Angeloff, le cofondateur d'Aircall. Mais tout d'abord, quelques infos sur l'entreprise avec Raphaël Couder.
La téléphonie d'entreprise n'est pas l'apanage des grands opérateurs télécoms. La preuve, depuis sa création en 2014, Aircall a réussi à s'implanter au sein d'une dizaine de milliers d'entreprises dans le monde. Sa plateforme qui associe la téléphonie aux logiciels professionnels, comme ceux dédiés à la relation client par exemple, séduit de plus en plus. L'entreprise frôle aujourd'hui les $100 millions de chiffre d'affaires annuel grâce à sa solution vendue par abonnement. Un succès accéléré par la pandémie l'an dernier et le développement du travail à distance. À cette allure, la start-up, dont le siège a été transféré aux États-Unis dès 2016, pourrait concrétiser plus rapidement que prévu sa volonté d'entrer au Nasdaq. En attendant, cette levée de fonds va lui permettre d'ouvrir de nouveaux bureaux à Berlin et à Londres, mais aussi de poursuivre l'amélioration de sa plateforme, notamment grâce au développement de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle.
On est content d'en arriver là. C'est pas rien après 7 ans d'être valorisé plus $1 milliard. Même nous, on ne l'espérait pas finalement au début, et ça arrive. Maintenant, la suite de l'aventure continue. En effet, vous le dites, on est allé très tôt aux États-Unis. 30% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis. Plus de 15% en France, donc 85% en dehors de la France. Mm-hmm. Donc on a cette approche très international, mais il y a tout encore à faire et on est très excités par cette annonce.
Oui, et vous avez été très porté par l'année 2020, alors que dans le même temps, vous avez été impacté.
C'est ça. En fait, nos clients, certains ont été très impactés. Oui. Évidemment, le travel, toute l'industrie un peu du voyage, ça a été assez difficile pour eux. Mais nous, de l'autre côté, on avait des clients qui avaient besoin du coup de se digitaliser. Et donc finalement, cette crise a poussé à marche forcée les PME et les ETI à se digitaliser rapidement. Et
donc, 70% de croissance pour vous.
65% en 2020. Et là, on prévoit plus de 72% en 2021.
La prochaine étape, ça sera sans doute une introduction en bourse, non ? Ça paraît écrit, non ?
C'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'on a fait rentrer Goldman Sachs au capital, ouais, qui est une banque internationale et qui a l'habitude de faire des IPO, notamment au Nasdaq, vous l'avez précisé. Donc, à première vue, on est parti pour comme prochaine étape, et je serais très fier de venir l'annoncer sur BFM, en tout cas de nous introduire en bourse. Tout ça pour continuer, évidemment, à développer notre produit, développer notre marque, attirer des talents, parce que c'est l'objectif. Objectif, ouais, évidemment, d'une levée de fonds.
Voilà, Jonathan Angeloff, le cofondateur d'Aircall, notre 16e licorne, bon, française encore quand même.
Hein. Mais bien sûr, bon, toujours française.
Voilà, donc pour cette 16e licorne, donc toujours française, même si on a compris, l'introduction en bourse devrait se faire plutôt du côté du Nasdaq, du côté de New York. Godefroy de Bensman, que vous inspire, voilà, ces levées de fonds qui se multiplient, mais aussi ces yeux qui se tournent très vite hors de France pour ces pépites de la French Tech, vous, un des patrons de la filière numérique française.
Bah, je dirais que moi je suis toujours très très excité, très admiratif, ça a quelque chose d'enthousiasmant, bien sûr. Je suis quand même un peu triste de me dire qu'aujourd'hui tout notre système est fait pour financer des boîtes qui se font racheter par des Américains, ou en tous les cas pas des Français ou pas des Européens. Et donc c'est vrai que c'est interpellant, et c'est pas du tout une critique pour ces jeunes patrons, hein, au contraire, c'est notre système qui est pas fait pour ça, donc il faut qu'on travaille à permettre un débouché, une sortie, entre guillemets, à ces fonds qui ont pu accompagner ces jeunes boîtes.
Et ça donc, fait partie de vos chantiers en tant que nouveau co-président.
Ça fait partie de nos chantiers. C'est un sujet sur lequel on va mettre de l'énergie. Oui.
On parlera de vos chantiers dans quelques instants, mais tout d'abord une autre pépite de la French Tech qui a un pied à Paris, l'autre à New York. Et bien, c'est Mnemotherapeutics qui vient de lever $75 millions. On est là dans le domaine de l'immuno-oncologie, ces nouvelles thérapies cellulaires contre différents types de cancers. Juste avant d'écouter Alain Mayer, le cofondateur de l'entreprise, Hélène Cornet nous dit tout sur cette levée de fonds et sur les ambitions de Mnemotherapeutics.
La plupart des grands fonds spécialisés dans la santé ont répondu présent pour ce premier tour de table, et parmi eux le fonds européen Sofinnova qui a soutenu la biotech dès sa création en 2016. 75 millions d'euros levés au total pour aider au développement de Mnemotherapeutics, une biotech française à la pointe de la recherche contre certains cancers. Le potentiel du marché est colossal. Principale innovation, une nouvelle approche thérapeutique auto-immune qui consiste à booster le système immunitaire afin qu'il combatte lui-même plus efficacement les cellules cancéreuses. Les recherches débutent et la société n'en est pas encore au stade clinique, mais les investisseurs semblent avoir été convaincus de la pertinence de cette nouvelle plateforme technologique, mise au point par des chercheurs de renommée mondiale, car Mnemo, c'est avant tout l'alliance de deux leaders dans la thérapie contre le cancer, l'Institut Curie en France et le Memorial Sloan Kettering à New York.
On appartient au secteur de l'immuno-oncologie qui a vraiment révolutionné le traitement du cancer ces 10-15 dernières années. C'est le domaine de la thérapie cellulaire. Il y a un acteur en France qui était jusqu'à maintenant très connu, qui était Cellectis. Mm-hmm. On a profité du fait qu'il nous ait ouvert la voie pour évidemment s'engouffrer dans la brèche.
Là, les 75 millions d'euros, ils vont vous servir à quoi aussi? À accélérer? C'est vers les essais cliniques? C'est financer justement cette prochaine étape?
De toute façon, depuis le début, on accélère. C'est le maître mot du mode de fonctionnement. C'est vraiment se focaliser sur la construction de l'entreprise dans des échelles de temps qui sont équivalentes à ce que font nos collègues américains. Et l'argent qu'on a levé, c'est vraiment pour renforcer la plateforme. On a de multiples programmes de découverte et de développement préclinique sur des cibles précises, aussi bien en tumeurs liquides qu'en tumeurs solides. Et le but, c'est d'être en capacité de rentrer en clinique fin 2023, début 2024.
Voilà, et ces essais cliniques se dérouleront notamment en France. Alors avant de recevoir plus en longueur, plus en détail le nouveau coprésident de Nouméum, encore un secteur technologique où la France, on l'espère, va pouvoir jouer un rôle prépondérant dans les prochaines années, c'est l'hydrogène. Et tout d'abord, ce partenariat tripartite annoncé lundi dernier entre Air Liquide, Airbus et Aéroports de Paris, afin de travailler sur ce que l'hydrogène pourrait apporter au secteur aérien à l'horizon 2035. Explication signée Jean-Baptiste Huette.
Doit-on produire l'hydrogène au cœur des aéroports, le livrer par camion, par pipeline? Combien de temps pour faire le plein? Combien de fois par jour? Quelles nouvelles règles de sécurité? Bref, Airbus, ADP et Air Liquide ont une foule de questions, mais encore aucune réponse. Ils vont donc étudier les configurations d'une trentaine d'aéroports à travers le monde afin de réfléchir aux différentes méthodes d'approvisionnement. On attend les toutes premières conclusions d'ici à la fin de l'année. L'arrivée de l'hydrogène dans les aéroports va modifier très en profondeur leur fonctionnement et leur organisation. Il va falloir par exemple mettre en œuvre de nouvelles procédures de sécurité et de certification. Or, ce seul travail peut prendre jusqu'à 10 ans, explique le patron de l'agence de sécurité aérienne en Europe. D'ici une trentaine d'années, ce sont de phénoménales quantités d'hydrogène qui devront être produites pour le secteur aérien, puis transférées vers les aéroports. Pour y répondre, explique un cadre d'Air Liquide, il faudra au moins multiplier par 100 la production actuelle. C'est donc un défi logistique qui se prépare dès aujourd'hui.
Et ce même hydrogène qui à terme pourra également bien sûr intéresser le secteur automobile, et comme souvent, eh bien c'est par les voitures de course que pourraient passer les principales innovations. L'un des projets les plus aboutis est français, c'est la Machina, même si ça ressemble plus à de l'italien, une berline de luxe développée par Olivier Lombard, lui-même ancien pilote de course. La semaine dernière, il a présenté le premier prototype de sa Machina lors du salon Vivatech dont BFM Business était partenaire, et juste après cette révélation, eh bien il est venu en parler à Frédéric Simotel. On l'écoute dans un instant. Mais tout d'abord, ce sujet sur la Machina et sur cette berline par Julien Rizzo.
Opium accélère. Avec son prototype, la start-up fondée il y a seulement 2 ans s'approche de la version définitive de sa berline de luxe, la Machina. Un modèle sportif 100% hydrogène d'une puissance de 500 chevaux avec 1000 km d'autonomie, rechargeable en 3 minutes. Un véritable défi industriel qui a séduit les investisseurs privés. Au total, Opium a levé plus de 7 millions d'euros depuis sa création. Des financements qui lui ont permis notamment de concevoir sa propre pile à combustible. L'entreprise s'est également associé avec Plasticonium pour trouver une solution de stockage de l'hydrogène. Si l'industrialisation et la commercialisation de la Machina ne débuteront pas avant 2025, Opium vient d'ouvrir 1000 véhicules en précommande. D'ici 2030, la marque compte écouler 8000 véhicules par an, vendus à partir de 120 000 euros. Reste à résoudre la question des infrastructures. L'Europe compte aujourd'hui à peine une centaine de stations d'hydrogène et Opium n'a pas les moyens, comme Tesla l'a fait pour ses voitures électriques, de développer son propre réseau. Le fondateur de la start-up compte donc sur les pouvoirs publics pour soutenir le déploiement rapide de milliers de stations sur le continent.
Il y a un beau savoir-faire français technologique autour de l'hydrogène aujourd'hui. Il y a un bel écosystème. Et moi, j'ai réussi à fédérer autour de ce projet des compétences techniques, des gens qui ont des compétences techniques exceptionnelles par rapport à cette technologie.
Vous travaillez notamment avec Plasticomium, comme gros industriel, c'est ça ?
Alors oui, on a signé un partenariat avec Plasticomium il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Et donc, ils vont nous développer toute la partie stockage hydrogène dans la voiture. Finalement, Plasticomium, ça a été le premier partenaire industriel français qui a rejoint l'aventure. On va en avoir d'autres qui vont arriver dans les mois qui viennent. Et finalement, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est extrêmement bien reçu parce que je pense que ces groupes ont finalement un besoin. Ils ont des technologies existantes, ils ont un besoin de pouvoir les appliquer sur des modèles. Et aujourd'hui, nous, on arrive en voulant faire vraiment office de vitrine technologique, en ouvrant la voie de la mobilité hydrogène avec justement cette belle voiture, ce beau produit. Et voilà, donc finalement, je pense qu'il y a vraiment des beaux partenariats à faire avec ces groupes qui vont pouvoir nous aider à finalement accélérer et avoir un rayonnement mondial très rapidement.
Vous avez levé un peu moins de 7 millions d'euros, je crois, auprès d'investisseurs privés. Qu'est-ce qui fait que vous allez réussir à franchir le pas ? Enfin voilà, quel plan de route vous êtes donné aujourd'hui, Olivier Lombard ?
Aujourd'hui, on a présenté notre premier prototype, pas plus tard qu'hier, qu'on a baptisé Alpha Zero. Donc pour nous, c'était vraiment un premier milestone très important, ce qu'on avait annoncé en octobre de l'an dernier qu'on allait présenter ce prototype. Et ça a été un vrai tour de force pour nous, parce qu'on a fait ce proto en l'espace de 8 mois, quand généralement un constructeur met à peu près 2 ans, donc voilà, c'était très rapide. Et maintenant, pour nous, c'est passer à l'étape suivante, qui est se rapprocher de plus en plus du côté industriel du projet. Donc on a 4 ans pour commercialiser, pour développer, continuer à développer, continuer à améliorer, raffiner, et puis ensuite produire la voiture pour arriver enfin à la commercialisation fin 2025.
Fin 2025, et au départ, vous visez combien ? C'est quoi ? C'est 2000, 4000 modèles par an ou plus ?
L'objectif, c'est d'arriver à 8000 modèles vendus par an en horizon 2030.
Voilà donc pour les ambitions très fortes de la jeune start-up Opium avec un H comme hydrogène qui vient donc de présenter son prototype de berline de luxe qui roule précisément à l'hydrogène. Notre invité avec qui on a parlé il y a quelques instants, donc lui non plus ne manque pas d'ambition quelques jours après sa désignation au poste de coprésident de Numéum. Donc rebonjour Godefroy de Benzmann.
Bonjour.
Alors Numéum, donc c'est en fait une fusion entre deux acteurs que l'on connaît bien du numérique, Syntec Numérique et Tech in France. Pourquoi cette fusion qui s'est mise en place donc la semaine dernière?
C'est une vieille histoire, dans le sens où Tech in France est une organisation professionnelle qui représentait les éditeurs essentiellement, ou une partie des éditeurs, et Syntec Numérique, c'est une plus vieille organisation qui représentait un monde plus large, qui était les gens du service, aussi bien du conseil que de l'intégration, que des gens qu'on appelle le conseil en technologie, qui sont plutôt sur l'innovation, et puis des éditeurs. Et il est certain que ces deux organisations qui touchaient quand même des enjeux communs, on va y revenir, avaient une voix pas forcément discordante, mais faisaient double emploi ou en tous les cas faisaient deux fois la même chose vis-à-vis d'un certain nombre d'interlocuteurs, vis-à-vis desquels on cherche à pousser un certain nombre d'idées, faire mûrir, débattre, etc.
Dont Cédric Haut, le secrétaire d'État au numérique, on dit qu'il a beaucoup œuvré justement pour ce rapprochement, parce que pour faire simple, il en avait parfois un petit peu marre d'avoir les deux interlocuteurs qui se succédaient dans son bureau, vous-même et Pierre-Marie Le Huchet qui représentait Tech in France, voilà. Pour les mêmes thématiques en fait.
Exactement. Donc il y a des années, il y a maintenant 6 ans, moi, que je préside Syntec Numérique. Il y a 6 ans que je me coordonne. Alors bien souvent on essaie de se coordonner, quelquefois non, mais enfin on cherche à exister tous et évidemment on perd beaucoup d'énergie, beaucoup de focus. Et Cédrico a eu l'amitié entre guillemets de jouer le teaser et de nous dire les gars, il faut y aller. Coordonner que vous fassiez le job. Et je peux dire que c'est quand même un sujet qui dure, puisqu'il y a des années que mes prédécesseurs à la tête de Syntec et la même chose pour Pierre-Marie Le Huchet à la tête de Tech in France, avait essayé de rapprocher. Bon, il faut croire que
maintenant c'est
pas
le
moment.
Fait. C'est le plus important. Vous me parliez d'enjeux communs. Quels sont les principaux enjeux communs de cette nouvelle entité ?
Les enjeux communs, c'est de faire que le numérique en France puisse parler d'une seule voix sur des enjeux qui sont devenus quasiment sociétaux, sur lesquels, pendant très longtemps, nous avons parlé de notre secteur quand on parlait de numérique. Mais aujourd'hui, quand on parle du numérique, on parle de tous les secteurs. Et finalement, quand on regarde le DMA, qui est le Digital Act européen qui est en cours, et ses enjeux, on a parlé du RGPD, on parle de la cyber tous les jours, c'est des sujets qui étaient les sujets dénumérisants des entreprises, que ce soit de services ou les éditeurs de logiciels qui étaient concernés par ces enjeux-là. Aujourd'hui, les premiers concernés, c'est Airbus, vous parliez d'Air Liquide, les gens qui fabriquent des voitures, le transport aérien, vous en parliez à l'instant, l'administration, et même les particuliers qui sont tous concernés par le sujet de la privacy, bien sûr, mais de la cyber, mais voilà, de la manière dont on traite les données.
Et est-ce qu'on ne l'est pas encore plus depuis la pandémie? Parce que vraiment, on a beaucoup parlé, on en parlait depuis de très nombreuses années, de la nécessité de transformation numérique, et bien là, tout s'est accéléré. En fait, cette crise, elle a été, et c'est votre cas dans le numérique, une formidable opportunité de croissance et de transformation.
Oui, je crois que la pandémie est quelque chose d'assez terrible pour...
sur le plan sanitaire, voilà, évidemment.
Sanitaire, bien sûr, les entreprises, c'est particulier, mais elle a quand même un élément positif, c'est qu'elle nous oblige à regarder la réalité en face. Et finalement, les entreprises qui étaient soumises aux enjeux qu'ils ont rencontrés avec cette crise ont touché du doigt que plus ils étaient digital et plus ils s'en sortaient bien, plus ils pouvaient réinventer, plus ils pouvaient toucher leurs clients, qu'ils soient en B2C ou en B2B. Et aujourd'hui, on voit une accélération. J'ai discuté avec mes pairs ce matin. On est fasciné de voir la manière dont notre secteur reprend, parce que nos clients sont confrontés à ne plus tâtonner, lancer des proof of concept, mais là, ils accélèrent à fond et c'est notre secteur qui le reprend. Mais pour reprendre le point tout à l'heure, pourquoi on parle d'une seule voix? Parce que on est obligé d'abord d'admettre qu'on n'est plus les seuls à parler de ces sujets du numérique. Tout le monde est concerné. Et donc, les enjeux de formation, d'attractivité de notre secteur, mais en fait, c'est de tous les secteurs qui veulent des compétences numériques. Les sujets qui sont, je reprends les sujets cyber, en fait, on a tous un avis sur le sujet. Et il n'y a pas d'espace où on peut arriver à trouver les moyens de discuter avec ceux qui peuvent faire aboutir des sujets, les pousser, proposer des idées au gouvernement, proposer des idées à Bruxelles, lobbyer.
C'est important, voilà, c'est ça, parce que donc il y a donc la partie française, il y a la partie européenne aussi. Vous dites, c'est très important qu'à partir du 1er janvier 2022, la France prenne la présidence tournante de l'Union. Ça va être aussi un moment clé, plus les enjeux qui vont être débattus lors de la présidentielle. C'est vraiment une bonne fenêtre de tire pour nous, pour porter notre voix et défendre les sujets qui nous concernent.
On a beaucoup de chance d'avoir Thierry Breton à l'Europe depuis un moment déjà, et on peut dire que nous, de notre côté, dans notre industrie, on a senti les différences. Mais il est très clair que la France, avec l'arrivée du président Macron, a enclenché quelque chose qui nous manquait jusque-là, qui était de comprendre que le numérique était au cœur des enjeux de la France. Je regrette un peu que dans les élections en cours, là, ce soit plus le sujet. J'ai l'impression qu'il y a d'autres enjeux. Mais à la présidence de l'Europe, si la France joue tout son rôle, on sait qu'on est une culture, qu'on a un focus, qu'on a des certitudes, des convictions dans les domaines de la cyber, de la justice fiscale. Il y a des sujets sur lesquels la France peut donner un impact, travailler probablement plus étroitement avec Thierry Breton. Et là, je crois que ça va dans le bon sens pour nos entreprises, plus largement en Europe, parce qu'on a besoin d'un marché numérique. On a besoin de décisions communes et même quelquefois pas parfaites. On a peut-être tendance en France à vouloir toujours du parfait. Il faut admettre qu'il vaut mieux une décision rapide que trop parfaite.
Et sur la start-up Nation, donc, qui a été mise en place en France il y a quelques années, c'est un slogan bien sûr, mais on le montre nous dans notre émission, on parle beaucoup des pépites de la French Tech, on parle beaucoup de levée de fonds, on parle beaucoup de ces start-up, mais vous dites-vous, vous nous l'avez dit d'ailleurs au cours de cette émission, il faut passer à l'étape d'après, et c'est souvent l'arbre en quelque sorte qui cache la forêt de l'ensemble de l'écosystème du numérique.
Alors, l'étape d'après, c'est évidemment permettre à nos entreprises françaises ou européennes d'ailleurs de trouver des sorties en France ou en Europe. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas, notre modèle financier ne permet pas ces sorties-là. Donc ça, c'est un enjeu qui est colossal, et je pense que le président Macron en est très conscient, et il faut que ça devienne un enjeu de l'Europe. Mais alors, l'arbre qui cache la forêt, je pense que pour des raisons peut-être de lisibilité, de facilité d'explication, on a tendance à magnifier le sujet des licornes, de ces petites entreprises qui n'existent pas et qui tout d'un coup valent des milliards, en oubliant que la très grande majorité, massivement, de l'économie, c'est des entreprises qui existent et qui doivent pivoter, comme des start-up. Alors la difficulté, c'est qu'elles sont grosses, c'est qu'elles sont plus grosses, elles ont une histoire, elles ont des habitudes, des certitudes, et que pour pivoter, c'est difficile. Et les petites, s'ils sont petits, c'est plus difficile aussi. Chacun a son enjeu. Mais si les grandes ne pivotent pas, elles disparaîtront. Et je veux juste illustrer le fait qu'on peut pivoter, on peut imaginer la suite. Si je prends l'exemple, une des plus belles pépites qu'on ait dans ce domaine-là, c'est Dassault Systèmes, c'est bien un grand industriel qui fabriquait des avions et qui est devenu le premier mondial dans le domaine de des logiciels de conception.
La conception et de la simulation, voilà. Et ça fait 40 ans qu'ils le font en plus. Hein. Ce n'est pas récent, quoi.
C'est plus qu'une licorne.
Notre entretien est terminé. Je voudrais juste rappeler quand même quelques chiffres clés, parce que donc vous êtes à la coprésidence de Numéum, et c'est une filière gigantesque puisqu'il y a plus de 2300 entreprises et 530 000 emplois directs en France. Donc c'est important de fédérer cette filière et qu'elle fonctionne bien. La mesure que vous allez mettre en place instantanément là dans votre présidence en quelques
secondes,
c'est
de renforcer les régions. Premier sujet, c'est renforcer les régions. On a une présence dans 13 régions et pour apporter notre catalogue de services à toutes ces régions qui ont besoin que le digital soit plus là. Et puis c'est de continuer à accélérer sur la formation, c'est un enjeu majeur. On est très heureux que le gouvernement ait repris une des mesures qu'on avait poussées. On avait poussé la grande école du numérique que le président Hollande avait lancée. Et on a poussé une mesure qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est de permettre à des gens qui ont transition collective, qui permettent à des gens qui sont encore en emploi, de ne pas passer par la case Pôle emploi, mais au contraire d'engager au sein de l'entreprise la transition vers un nouveau métier. Ça, c'est quelque chose dont on a un besoin colossal, parce qu'il y a plus de compétences potentielles en reformant des gens qui ont déjà une compétence qu'en attendant les jeunes qui sortent d'école. On les prend, mais il n'y en a pas assez.
Merci beaucoup donc pour ces ambitions, pour ces chantiers que vous allez mettre en œuvre. Donc Geoffroy de Bensman, co-président de Numéum, la nouvelle entité qui regroupe Syntec Numérique et Tech in France. C'est la fin de La France à tout pour réussir, que vous pouvez comme toujours écouter à la radio, regarder à la télé, et puis nouveautés sur les plateformes pour le replay. Vous pouvez nous retrouver tous les programmes du groupe Altice Média sur RMC, BFM Play, donc nouvelle plateforme de replay. Très bon week-end de l'été, c'est le premier week-end de cet été 2021. Bien sûr, allez les Bleus lundi soir face à la Suisse. Nous, on se retrouve le week-end prochain avec notamment le patron de la célèbre marque d'agenda Covadis, c'est Jérôme Nuss. La formule est latine, mais les agendas, eux, sont bel et bien made in France. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine. À très vite sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.